Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Mercredi 16 octobre, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Penchons-nous sur une obsession grandissante, le contenu de nos assiettes. En novembre 2017, la France lançait l'étiquetage Nutri-Score, ce logo à 5 couleurs qui se décline du vert au rouge et de A à E sur l'emballage des produits alimentaires. Objectif, éclairer le consommateur sur la qualité nutritive des différents produits. 2 ans après, quel bilan faire de cet étiquetage? Bonjour Chantal Julia, vous êtes médecin nutritionniste, enseignante-chercheuse à l'université Paris 13. Vous avez collaboré au développement du Nutri-Score. Je l'ai présenté brièvement. Dites-nous ce qu'il mesure, ce Nutri-Score.
Bonjour. Le Nutri-Score va mesurer la qualité nutritionnelle globale d'un aliment et donner une indication au consommateur sous la forme d'un logo sur cette qualité. Il est calculé à partir des informations qui sont disponibles déjà à l'arrière du paquet et il va prendre en compte des éléments dits défavorables de l'aliment, donc le sucre, le gras, le sel, l'énergie, et aussi des éléments plutôt favorables, les protéines, les fibres ou le pourcentage de fruits, légumes, légumineuses et noix.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, on a le droit d'avoir chaque jour, c'est pas un petit plaisir de consommer un aliment très très mal noté, ou bien il faut à tout prix éviter? Comment utiliser ce Nutri-Score au quotidien dans la façon de s'alimenter, docteur?
Alors, le Nutri-Score va donner une information qu'on dit relative. Il n'est pas possible actuellement, d'un point de vue scientifique, de dire qu'un aliment est mauvais ou un aliment il est tout bon. Donc il ne s'agit pas en aucune manière de dire qu'il faut consommer uniquement du A, c'est uniquement une indication pour dire voilà, à l'intérieur d'un choix de produits, vous avez potentiellement une variabilité nutritionnelle. Et donc, le Nutri-Score a pour objectif d'aider les consommateurs à faire des substitutions. Vous avez par exemple décidé, je ne sais pas, ce matin de manger des céréales du petit déjeuner. Eh bien, pour les céréales, le Nutri-Score peut aller de A à E. Donc, en fonction de vos choix alimentaires, vous pouvez décider de prendre en compte l'élément nutritionnel et passer d'un Nutri-Score plutôt C à un Nutri-Score, par exemple, plutôt B.
Et alors vous, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que ça veut dire qu'il faut de la variété de toute façon? Est-ce qu'il faut réussir à avoir malgré tout une qualité nutritionnelle telle que finalement les écarts sont les moins nombreux possibles, docteur?
Alors, l'idée, c'est effectivement, de toute façon, en nutrition, d'une façon générale, la variété est plutôt une bonne chose. La variété dans le nombre de produits qu'on peut utiliser, la variété à l'intérieur d'un groupe alimentaire, encore une fois, c'est une indication relative. L'idée est de dire, les produits qui sont plutôt E ou plutôt D sont plutôt à consommer avec une moindre fréquence ou plutôt en petite quantité. Inversement, les produits A ou B sont plutôt à favoriser. Mais encore une fois, l'intérêt principal, c'est de permettre d'éclairer des choix pour des produits alimentaires pour lesquels on a peu d'informations. Finalement, vous dire qu'il vaut mieux manger des brocolis par rapport à des chips, quelque part, vous n'avez pas besoin du Nutri-Score pour le savoir.
En effet, revanche, ça peut être un rappel utile pour certains.
En revanche, à l'intérieur d'un choix pour lequel vous n'avez pas forcément d'informations, la plupart du temps pour des produits qui sont transformés, des produits industriels qu'on connaît moins bien, le Nutri-Score peut aider justement à faire un choix plus éclairé d'un point de vue nutritionnel.
Mais le problème, c'est qu'en fait, ça mesure donc la qualité d'un produit, mais évidemment, ça ne donne pas d'indication sur le régime global. Et là, qu'est-ce que l'on peut faire, docteur Julia?
Alors, le Nutri-Score n'est jamais qu'un seul outil dans une politique nutritionnelle un peu plus globale. C'est complémentaire, par exemple, aux guides alimentaires ou aux recommandations nutritionnelles qui sont émises par les pouvoirs publics. Par Santé publique France, par exemple, le 5 fruits et légumes par jour est un indicateur complémentaire au Nutri-Score pour aider et guider la population à effectuer un régime alimentaire plus équilibré et plus favorable à la santé.
Aujourd'hui, on trouve de plus en plus d'applis sur les téléphones portables qui mesurent d'autres choses. Il y a par exemple l'appli Yuka qui est aujourd'hui très familière à beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'elle mesure en plus du Nutri-Score, docteur Julia?
Alors, Yuka va utiliser des informations, va prendre en compte la qualité nutritionnelle en prenant le Nutri-Score qui compte pour 60% de sa note. Pour 30%, elle va prendre en compte les additifs et pour 10% le fait que le produit soit bio ou pas. La question qui est issue de cela, c'est un effort de transparence supplémentaire, effectivement, mais on n'avons pas forcément accès à la façon dont sont classés les différents additifs et le degré de dangerosité qui est rapporté. Et d'un point de vue scientifique, pour l'instant, on ne connaît pas suffisamment on n'a pas suffisamment d'informations et suffisamment d'études, en particulier chez l'humain, pour être capable de quantifier le risque associé à un certain nombre d'additifs ou le risque associé au bio. Donc la question est de savoir...
Est-ce qu'il peut y avoir un risque associé au bio, docteur Julia ?
Alors, quelques études très récentes montrent qu'il y a plutôt un bénéfice à consommer des aliments bio, mais encore une fois, c'est trop récent pour être capable réellement de quantifier de façon globale l'effet du bio sur la santé en général.
Et puis alors, dernière chose, la plupart de nos auditeurs prennent leur petit déjeuner. Quel conseil leur donner, docteur Julia, comment faire en sorte d'avoir un petit déjeuner sain, équilibré ?
Alors, le petit déjeuner, alors tout le monde n'en prend pas. Il y a des personnes qui sont habituées à avoir un rythme alimentaire dans lequel le petit déjeuner ne compte pas. Ce qui est important, c'est si c'est une période qui est organisée à l'intérieur de la journée, qu'elle soit généralement, on considère qu'il vaut mieux consommer une portion, par exemple, de fruits et légumes, des féculents, plutôt des féculents complets, pour permettre d'avoir une énergie suffisante pour le reste de la matinée, le petit déjeuner étant la période où on va arrêter le jeûne lié au sommeil.
Et là aussi, est-ce qu'il faut avoir une alimentation variée au petit déjeuner ou bien le même régime alimentaire chaque jour, cela peut-il convenir, docteur Julia ?
Alors, avoir le même régime alimentaire ne gêne pas pour le petit déjeuner. La plupart du temps, c'est une habitude alimentaire pour laquelle c'est toujours les mêmes consommations. En soi, c'est pas un problème. Si, d'une façon générale, sur le reste de la journée, l'équilibre alimentaire est maintenu. On considère que le rythme alimentaire, il ne faut pas envisager l'équilibre comme étant très strict pour tous les repas. Il ne s'agit pas d'avoir quelque chose de très formaté pour chaque repas. L'équilibre alimentaire se fait sur une journée, voire sur une ou deux journées. On sait très bien qu'on peut faire des excès alimentaires. On rattrape sur la journée suivante ou sur le repas suivant, ça ne pose pas de problème.
Merci docteur Julia, je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste et enseignante chercheuse à l'université Paris 13.